On va essayer d'expliquer aujourd'hui l'importance des midot tovot d'après la Torah. C'est-à-dire pourquoi c'est si important d'après la Torah d'avoir des bonnes midot, des qualités et des vertus. Alors d'abord je précise que dans un livre de Charles Gdusha de Rav Chaim Vital, il explique c'est quoi les midot tovot et quelle est leur importance. Il explique qu'en fait, les midot, c'est comme les fondations. Comme dans un bâtiment, eh bien, on voit uniquement les étages, rez-de-chaussée, premier, troisième, dixième, vingtième étage, alors que les fondations, les yisodot, elles sont en bas, elles sont sous terre. Eh bien, c'est pareil, nous dit Rav Vital, les midot tovot, c'est comme les fondations de l'être humain. C'est-à-dire les qualités de cœur que tu as, ou alors les défauts, eh bien, c'est la base de ta personnalité. Tout ce que tu fais comme Torah et mitzvot et tefillah, c'est comme le bâtiment que tu es en train d'édifier. Sur quoi? Sur une base qui s'appelle les midot, les qualités et les défauts. Donc tout ce que tu vas réaliser dans ta vie par rapport à la Torah ou mitzvot, ça va dépendre des midot que tu as. Ça veut dire aussi, entre parenthèses, que comme pour un bâtiment, s'il y a une fois un tremblement de terre, qu'est-ce qui va garantir que le bâtiment va tenir bon ou s'écrouler, ça va dépendre des fondations. Par aussi, dans la vie, lorsqu'on est des fois mis à l'épreuve, qu'est-ce qui va garantir qu'on va surmonter une épreuve ou alors flancher, tomber, ça va dépendre surtout des midot. Surtout, n'est-ce pas, des qualités de cœur, des défauts et des vertus. Pourquoi c'est si important d'après la Torah d'avoir des qualités de cœur et pas de défauts? Quelqu'un qui dit, moi ça m'est égal, j'ai beaucoup de défauts, laisse-moi tranquille. Pourquoi est-ce qu'il faut que je connaisse mes défauts pour les améliorer? Top. Alors on va donner plusieurs réponses pour ensuite arriver à la réponse la plus vraie, la plus parfaite. Première réponse, eh bien c'est ce qu'on appelle les istader b'chaim. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir s'arranger dans la vie. Quelqu'un qui est un voleur, qui est un tricheur, qui est un menteur, alors évidemment, eh bien, les gens vont s'écarter de lui. Ce n'est pas agréable d'être en contact, d'être à côté de quelqu'un qui est en train de te mentir et de te tricher. Alors si tu te mets à tricher et à mentir, à ne pas être un homme qui est honnête, eh bien, personne ne voudra être ton camarade et tu devras vivre tout seul. Et c'est pourquoi donc c'est important d'avoir des qualités de cœur, pour pouvoir s'arranger dans la vie. Pas aussi par rapport à un pays, au monde entier, c'est que si, n'est-ce pas, les gens se mettent à voler, à tricher, à piller, à tuer, eh bien, on ne pourra pas établir une société comme il faut. Comment est-ce qu'on peut garantir qu'un pays sera établi de façon parfaite, de façon réussie? Eh bien, c'est uniquement s'il y aura des bonnes midot. Si chacun fait ce qu'il veut dans ce pays, eh bien, on ne pourra pas, n'est-ce pas, on ne pourra pas avoir ni la paix, ni la justice. Top. Alors ça, bon, c'est vrai que c'est important. En effet, c'est important de s'arranger dans la vie, mais cependant, cette raison, elle est faillible. C'est-à-dire que si on s'en tient uniquement à cela, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un pourrait dire par exemple, ok, alors moi je vais vivre dans un désert, dans la forêt tout seul, alors je m'arrange avec personne parce que je vis tout seul. Donc c'est pas la peine que j'ai des bonnes midot parce que je ne vis pas en société. Ou alors quelqu'un dit, eh bien, même dans le cas où je ne m'arrange pas, ça m'est égal. Que les gens s'écartent de moi, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas assez convaincant pour me dire qu'il faut absolument arranger mes midot, que j'ai des qualités. Donc cette raison, elle n'est pas assez suffisante. Deuxième problème, c'est que c'est une raison qui a une base, une source qui est égoïste. C'est-à-dire qu'en fait, la raison pour laquelle je veux avoir des qualités et des vertus, c'est uniquement pour pouvoir m'arranger avec toi, avec la famille, avec les voisins, avec la société. Mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir des défauts. Alors, c'est-à-dire que la raison qui va me pousser à améliorer mes qualités, c'est uniquement pour pouvoir avoir des meilleurs rapports avec la société. Donc en fait, c'est une raison qui va rester égoïste. Elle est égocentrique, parce qu'en fait, je le fais uniquement pour pouvoir m'arranger encore mieux avec toi. C'est pourquoi c'est une raison qui n'est pas assez suffisante pour nous convaincre, pour nous dire qu'il faut avoir des bonnes midot d'après la Torah. Top. Alors, deuxième raison, c'est quoi? C'est qu'en fait, eh bien, on voit que dans tous les pays du monde, il y a ce qui s'appelle il y a une politesse, il y a une façon de vivre, il y a une certaine culture, il y a une certaine façon de se conduire qui est admis selon la morale, selon l'esprit humain, selon la logique humaine. Donc, et cela aussi, c'est une raison suffisante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ma logique, c'est ma morale, ma conscience qui me pousse à avoir des qualités de cœur. Parce qu'en fait, quand je me mets à tricher, ou à mentir, ou à voler, eh bien, je suis mal à l'aise. Ma conscience, elle me dérange. J'ai une mauvaise conscience. Et c'est une raison suffisante pour me pousser à avoir des qualités de cœur. Top. Alors ça aussi, c'est bien beau. C'est vrai que la conscience, c'est important. Mais cependant, si on se limite uniquement à la conscience, c'est risqué. Pourquoi c'est risqué? Parce qu'en fait, la conscience humaine, ou la morale, ou la logique, c'est quelque chose que tu as bâti, que tu as fondé, que tu as édifié, sur quelque chose qui provient de l'être humain. Ça provient d'une réflexion humaine. Ce n'est pas divin, mais c'est une réflexion humaine. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là de la logique humaine, de la morale humaine? Eh bien, l'humanité a prouvé, a montré à maintes fois qu'elle est faillible. Alors, pour expliquer cela, on va d'abord faire une parenthèse. On avait dit, je crois déjà dans un des cours, dans Parashat Vayera, Elech Lecha. Il y a une différence flagrante et fondamentale entre la façon de se conduire de Paro et de Avimelech envers Avram et Sarah. On sait par la Torah raconte que Sarah a été prise à deux reprises par Paro et par Avimelech. Bon. Mais la Torah nous relate ces faits de façon différente. C'est-à-dire que Avram a dit à Paro, ainsi qu'à Avimelech, que Sarah était sa sœur. Et qu'est-ce qui se passe? Et Paro dit à Avram, pourquoi, quand il s'est rendu compte de la vérité, pourquoi est-ce que tu m'as dit que c'est ta sœur, alors qu'en fait, c'est son épouse? Et on voit que la Torah ne nous donne aucune réponse d'Avram. Avram n'a pas dit un mot. Alors que pour Avimelech, il y a un dialogue entre Avimelech et Avram. C'est-à-dire, Avimelech dit à Avram, pourquoi est-ce que tu as dit que c'est ta sœur et pas ton épouse? Et puis, il exige une réponse d'Abraham. Jusqu'à ce qu'Abraham lui dit, « Kiraiti rakenirat elokim bamakom azeh varagunet barishti. » Alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est bien simple. Paro était conscient que dans son pays, c'était des gens qui étaient mal éduqués, qui n'avaient aucune logique, aucune morale, et c'est un pays qui était sans justice. Alors, Paro était conscient d'avouer que si Abraham avait dit que Sarah était son épouse, on l'aurait liquidé, on aurait pris Sarah. Alors qu'Avimelech lui a dit, chez nous, tu n'as rien à craindre. Parce que chez nous, eh bien, il y a un palais de justice, il y a des gendarmes, il y a une prison, il y a un certain ordre, tu aurais dit que c'est ta femme, tu aurais rien à craindre. Et Avimelech a été tellement dérangé par cela qu'il a exigé d'avoir une réponse. Alors on lui dit, ça ne sert à rien. Pourquoi? S'il n'y a pas de crainte de Dieu, ça ne sert à rien. Tu as beau faire établir un palais de justice, tant que les gens ne craignent pas Dieu, eh bien ça va ne servir à rien du tout. On peut s'arranger de faire un accident par hasard pour ensuite liquider Abraham et prendre Sarah. C'est-à-dire qu'en fait, la morale, il faut la baser sur la crainte de Dieu, sur l'amour de Dieu. C'est une notion qui est divine. Alors, c'est une petite histoire. Bon, je le répète, on l'a déjà raconté. C'est que la veille de Pessah, le rabbi Yitzhak Berditchov avait dit à son élève, va me chercher dans la ville, dans le ghetto juif en fait, va me chercher un peu de drogue. Ah, et l'élève qui était très effrayé, comment est-ce que le rabbi demande une chose pareille? Alors il dit, rabbi, qu'est-ce que je vais chercher? Il dit, oui, un peu de drogue, va me chercher. Donc, le rabbi a dit, on exécute. Il va de maison en maison, il est très gêné de demander ça. En fin de compte, il a trouvé un peu de drogue, un prix très cher, l'amène au rabbi. Le rabbi le prend, le met dans la poche. Ensuite, le rabbi lui dit, maintenant, va me chercher une tranche de pain. Et c'était déjà, n'est-ce pas, c'était la quatrième heure, à la veille de Pessah, donc c'est interdit de manger du pain, mais on peut encore le posséder. Alors, l'élève dit au rabbi, rabbi, c'est impossible, maintenant, les gens ont déjà terminé de consommer le chametz. Il a dit, va faire le tour du ghetto, trouve-moi une tranche de pain. Et l'élève revient après une demi-heure et dit, rabbi, j'ai fait le tour du ghetto, j'étais chez tout le monde, j'ai trouvé chez personne une tranche de pain. Et là, le rabbi dit à son élève, tu vois, c'est la différence. C'est que, eh bien, la drogue, c'est interdit par la justice. Et quelqu'un qui est, n'est-ce pas, qu'on a trouvé en train de vendre cette drogue-là, eh bien, il est emprisonné et on lui fait une amende. Et malgré tout, tu as réussi à trouver un peu de drogue. Alors que le chametz, le pain, c'est interdit par la Torah, mettons même c'est commis de Rabbanan, et si on attrape quelqu'un, on lui fait rien du tout, et malgré tout, tu n'as pas pu le trouver. Pourquoi? C'est quoi la différence? La différence est que cette interdiction, eh bien, c'est l'humanité qui l'a instaurée. Et quand tu fais quelque chose parce que c'est les hommes qui l'ont instauré, parce que ton esprit te le dicte, eh bien, c'est faillible. On peut s'arranger, n'est-ce pas, pour contourner la loi, contourner la justice et la morale, et le faire. Alors que ne pas prendre du pain la veille de Pessah, c'est quelque chose qui est divin. Ce n'est pas une morale, mais c'est une divinité. Et quand tu le fais parce que la Torah te l'a ordonné, eh bien, c'est infaillible. C'est infaillible. Bon, évidemment, on peut toujours faire des revérots, c'est vrai. Mais lorsqu'on décide de faire la mitzvah, eh bien, on la fait jusqu'au bout et on n'est pas tenté, n'est-ce pas, par 36 raisons à droite à gauche. Alors, c'est pour ça, entre parenthèses, que la Torah nous parle de plusieurs interdictions qui nous paraissent un peu bizarres. La Torah nous dit ne pas tuer, ne pas voler. Et on se dit, ces mitzvot-là, elles sont évidentes. Même chez le goyim, c'est interdit et c'est grave de tuer ou de voler. Alors pourquoi la Torah doit nous parler de cela, Bichlal, du tout? Et encore plus, pourquoi est-ce que la Torah nous inscrit ça dans les 10 commandements de la Torah? On est préparé pendant quelques jours à l'avance, et puis la montagne se met à trembler, il y a les éclairs et le tonnerre et le chauffard et le feu. Pour nous dire quoi? Ne pas tuer, ne pas voler. Eh bien, c'est la réponse. En fait, si tu vas ne pas tuer, ne pas voler, parce que ta raison le dicte, parce que la justice l'interdit, parce que, eh bien, c'est une morale, parce que tu as mauvaise conscience de le faire, c'est faillible. Tu peux, un jour ou l'autre, flancher, être tenté, tu es intéressé, tu es attiré, tu as des raisons pour te justifier de faire telle ou telle avéra, et tu vas la faire en fin de compte. Comme par exemple, tu peux dire, eh bien, si je vole quelques sous de quelqu'un qui est milliardaire, pour les donner à quelqu'un qui est pauvre, qui est misérable. Il n'y a rien de grave. Non seulement c'est pas grave, mais c'est bien de le faire. Parce que lui, il ne va même pas s'en rendre compte. Lui, c'est un milliardaire. Et puis c'est un avare, c'est un radin. L'argent est en train de pourrir chez lui. Alors que l'autre, il n'a pas de quoi manger. Eh bien, au contraire, c'est une grande mitzvah. C'est un bienfait que je vais de prendre cet argent et de le donner à cette personne. Là, c'est uniquement lorsque tu vas suivre la morale, la raison, la conscience, tu peux te tromper dans ce domaine-là. Mais quand la Torah, c'est une divinité. Quand tu ne voles pas, parce que la Torah te l'a dit, et la Torah, elle est divine. Là, tu vérifies. Est-ce que dans ces conditions, j'ai le droit de voler ou pas? C'est pourquoi la Torah nous dit, ne pas tuer, ne pas voler, il faut le faire. Pas uniquement parce que c'est ta raison qui te l'a ordonné. Parce que tu as envie de le faire, parce que c'est beau, c'est sympathique, parce que c'est poli, etc. Parce que tu es habitué. Il faut le faire parce que la Torah te l'a ordonné. Et dans ce cas-là, c'est infaillible. Parce que tu es toujours accroché à cette Torah, et avant de te permettre telle ou telle action, tu vas vérifier est-ce que tu peux le faire ou pas. Donc c'est pourquoi, n'est-ce pas, c'est pourquoi le fait d'avoir des qualités de cœur, cette raison qui est la morale, la conscience, la raison, la politesse, l'éducation, c'est pas suffisant parce que c'est une raison qui est faillible. Parce que, en effet, on peut des fois contourner la loi et la justice et la morale dans certaines circonstances. Maintenant, il y a encore une autre faiblesse dans cette conception. Quand on considère qu'en fait, on va avoir des bonnes midot, des qualités, parce que, bon, c'est bien, c'est la conscience et la morale, il y a encore une autre faiblesse. C'est quoi? C'est qu'on peut des fois se tromper. On voit dans les parachutes aussi, Vayera, Lot a été sauvé de la ville de Sodome. Et par quoi il a été sauvé? La Torah nous dit, il a eu le mérite d'être sauvé. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont passé la douane, eh bien Avraham avait pris Sarah, l'avait mise carrément dans une malle énorme, évidemment, pour pas que les gendarmes s'en rendent compte. Et Lot, eh bien, il aurait pu dénoncer Sarah, il aurait pu la dénoncer au douanier, et l'a pas fait. comme il ne l'a pas fait, il a été récompensé, que Hachem l'a sauvé de la ville de Sodome. Et là, on pose la question, Zessa pose la question à Mirta Meliaou, il dit, est-ce que ça mérite pour l'autre de ne pas dénoncer Sarah qui était en fait, qui était sa cousine? Et deuxièmement, si on cherche un mérite à l'autre, l'autre avait un mérite extraordinaire, on voit qu'il a fait entrer des invités chez lui à la maison, à Sodome, alors qu'en fait c'était formellement interdit, c'était un danger de mort carrément. On voit d'ailleurs que tout après, après quelques heures, toute la ville est venue chez lui, n'est-ce pas, pour prendre ses invités. Et l'autre, il a en fait risqué sa peau pour pouvoir amener des invités chez lui à la maison. Alors si on cherche un mérite à l'autre, là on a un mérite extraordinaire. Il fait la mitzvah de Achas Torchim, les mêmes invités, de façon grandiose. Il est prêt à risquer sa vie pour cela. Et là, c'est un plus grand mérite, plutôt, n'est-ce pas, que le fait de ne pas avoir dénoncé ça. Et alors, Destin nous dit que non. Là aussi, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, la valeur de ton action, elle ne dépend pas de la grandeur de l'action, mais de l'investissement que tu as eu par rapport à ce domaine-là. C'est-à-dire que lorsque tu as fait un effort pour faire quelque chose, là, cette action, elle est valorisée, elle est importante. Alors que lorsque tu as réalisé quelque chose, parce que c'est ton éducation, parce que c'est une habitude, parce que ça dépend des mœurs de la ville, du pays dans lequel tu as grandi, eh bien, cette action, elle a perdu beaucoup de sa valeur. C'est ce qui s'est passé pour Lot. C'est que Lot, il a grandi chez Avraham Avinu. Et automatiquement, pour lui, des invités à la maison, c'est normal, c'est évident, c'est facile. Il a grandi dans cette atmosphère-là. Et il avait besoin d'aucun effort pour le faire. C'est pourquoi ce n'est pas un mérite. Et non seulement cela, c'est qu'il s'est trompé dans cette action. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est une folie de vouloir amener des invités lorsqu'on risque sa vie. C'est une erreur. Deuxièmement, il a fait encore une erreur, c'est qu'il était prêt à donner ses propres filles aux gens de la ville pour pouvoir laisser ses invités chez lui, laisser en vie. Et là aussi, c'est une folie, c'est une chose absurde à ne pas faire. C'est-à-dire, et là, comment est-ce que Lot a pu faire une chose pareille? Parce qu'en fait, eh bien, il a amené les invités, non pas parce qu'il a travaillé, parce que la Torah qu'il a ordonné, parce qu'il a été habitué, parce qu'il a vu pareil chez Avraham et nous, il a imité la conduite d'Avraham. Et là, automatiquement, eh bien, cette conduite, elle n'a aucune valeur, aucune valeur. C'est pas un mérite pour être sauvé de la vie de Sodome. Quand on cherche un mérite, on va chercher le fait qu'il n'a pas dénoncé Sarah qui était dans la malle. Pourquoi? Parce qu'en effet, Lot était très attiré par le gain financier. Et en effet, il avait une bonne raison de la dénoncer pour pouvoir être récompensé par les gendarmes. Lorsqu'il s'est maîtrisé, il ne l'a pas fait. Là, il a été récompensé. Mais le fait d'avoir des invités, c'est pas une grande chose. Pourquoi? Parce que Lot était habitué à cela. Et quand on est habitué à cela, on fait des erreurs. C'est-à-dire, quand tu fais même la mitzvah par habitude, par routine, et tu ne fais pas un effort de te maîtriser, n'est-ce pas, de travailler cette mitzvah, parce qu'elle est divine, parce que la Torah qu'il a ordonnée, eh bien, automatiquement, on dérape à droite à gauche. Comme l'a fait Lot, d'abord, il fait une erreur d'aller les inviter alors qu'il risque sa vie. Deuxièmement, il est prêt à sacrifier ses filles pour les inviter. Eh bien, ça, n'est-ce pas, c'est aussi encore la faiblesse que lorsqu'on va avoir des bonnes midotes, parce que c'est la politesse, parce que c'est l'habitude, parce que c'est l'éducation, parce que c'est les mœurs et la culture du pays, la grande faiblesse, c'est qu'on peut déraper très facilement à droite, à gauche. On peut des fois, n'est-ce pas, se mettre à insulter quelqu'un pour que la rue, elle soit propre. Quelqu'un a jeté un papier dans la rue, on peut l'humilier devant, n'est-ce pas, une foule de personnes, parce que l'essentiel, c'est que la rue soit propre. Ça pourquoi? Parce qu'en effet, eh bien, on fait les mitzvot, on va avoir, on veut soi-disant être ordonné, être propre, pas parce que c'est une divinité qui l'a ordonné, mais parce que c'est l'habitude, la politesse, parce que c'est les normes, c'est la morale, c'est les mœurs du pays, etc. Ça c'est encore une faiblesse que lorsqu'on va baser notre conduite, notre morale, nos midot, nos qualités, par, n'est-ce pas, par l'environnement, par le pays, eh bien la faiblesse c'est qu'on dérape à droite, à gauche facilement. Entre parenthèses, dans ce domaine-là, le Rav Elchanan Wasserman, avait, avant la guerre, avait vu, n'est-ce pas, en Allemagne, des gens qui se mettaient à embrasser des animaux. Et il a dit, dans ce pays, ils vont bientôt tuer des hommes. Alors un animal, bon, il a sa fonction, n'est-ce pas, on doit l'utiliser dans certaines circonstances, mais on doit savoir la part des choses. On doit savoir que Hachem t'a donné un sentiment, t'a donné, n'est-ce pas, de l'amour, de l'affection à donner. Et on doit savoir à qui le donner, comment le donner. Lorsqu'on dérape dans ce domaine-là, lorsque le sentiment, on le donne à un animal. Il y a des gens qui même se passent d'avoir des enfants et le besoin de donner leur affection le donne à des animaux. Automatiquement, on dérape à droite et à gauche. Et là, on ne connaît plus, n'est-ce pas, on ne sait plus faire la part des choses. Et on peut des fois être cruel par rapport aux êtres humains. Pourquoi ? Parce que notre sentiment, notre affection n'a pas été dirigé, canalisé, là où il fallait être dirigé. Et là, on peut faire le contraire. Le contraire. Comme une voix céleste, une fois est sortie, elle a dit que celui qui a pitié de gens cruels, eh bien, plus tard, il sera cruel par rapport à des gens pour lesquels il faut avoir pitié. Et donc, on doit savoir connaître la part des choses et se limiter à ce que, n'est-ce pas, ce que Hachem nous dit. Et lorsqu'on dérape à droite à gauche, on fait des erreurs monumentales et fatales. Et ça provient pourquoi ? Parce qu'en effet, eh bien, la morale, la façon de se conduire, la politesse, elle n'est pas basée sur la Torah, pas basée sur une divinité, mais elle est basée sur la logique, sur la morale humaine. Et la morale humaine, elle a montré à maintes reprises qu'elle est faillible. Alors en fait, ce processus, comment est-ce que ça marche ? C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire qu'une personne va déraper et va tout d'un coup, eh bien, contourner la morale, la conscience, la justice. Il se conduit pendant des années selon cette morale politesse et tout d'un coup, n'est-ce pas, c'est le contraire. Pourquoi ? C'est très simple. Parce qu'en fait, inconsciemment, dans notre subconscient, on sait pertinemment que la morale, elle est faillible. Que la morale, elle peut être changée, transformée. Tout d'abord, parce qu'on se rend compte que de pays en pays, il y a des, par exemple, il y a des règles de politesse qui sont différentes. On sait bien que la politesse française, c'est pas comme la politesse israélienne. Il y a une grande différence. Donc, qui a raison, c'est encore une question. Mais on voit qu'il y a une grande différence dans ce même, par exemple. Même dans un même pays, d'une génération à une autre, il y a de grandes différences. Ce qui était évident il y a 200 ans est changé de nos jours. Ce qui paraissait poli il y a 20 ans, de nos jours ça a été transformé, c'est impoli, ou l'inverse. On voit, n'est-ce pas, que dans plusieurs pays, eh bien, même leur façon de se conduire était différente. On ne se conduit pas, n'est-ce pas, comme se conduisait Louis XIV ou Louis XVI. Dans beaucoup de domaines, beaucoup de notions ont été changées. Alors, et cela, ça montre qu'en fait, n'est-ce pas, que cette morale, cette ligne de conduite, elle n'est pas stable, elle n'est pas rigide. Elle peut être transformée. Et en fait, et qui transforme ça ? Eh bien, c'est les présidents, ou les ministres, ou les rois, les empereurs, etc. Selon leurs décisions, selon plusieurs critères, selon leur expérience, ils vont décider qu'on va instaurer telle ou telle conduite, même la justice. Même la loi de justice, elle est transformée, elle est différente d'un pays à un autre, d'une génération, une génération à une autre. Alors, ce qui fait que, inconsciemment, lorsque une personne est consciente de cela, eh bien, on peut se dire, en fait, qui a raison ? Tu me dis que c'est pas poli de faire comme ci, comme ça. Moi, j'estime le contraire. La preuve, c'est que dans tel pays, on fait le contraire. Et si tu avais grandi dans ce pays, eh bien, pour toi, ça aurait été évident exactement le contraire. Alors, tu me considères comme un homme qui est insolent et qui a une conduite qui est inadmissible, mais en fait, c'est faux. Parce qu'en fait, ce que tu considères, ta conception, elle a été bâtie, fondée par ton éducation, par ton pays. Si tu vivais au Japon, ou en Chine, ou en Russie, tu aurais réagi, tu aurais pensé autrement. Alors en fait, on ne peut pas donc donner, je veux dire, une conception qui va être tout à fait stable et véridique, et prouver la véracité de cette conception, pas par le fait que c'est le pays, c'est l'habitude, c'est les mœurs. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on sait cela, consciemment ou alors inconsciemment, ça peut nous permettre des fois de contourner la justice, de contourner la morale, la politesse. Parce que je sais pertinemment que c'est pas quelque chose qui est stable, pas quelque chose qui est prouvé de façon véridique. La preuve, c'est que Dans un autre pays, c'est le contraire. Encore un autre exemple. L'humanité a montré à plusieurs reprises qu'elle s'est trompée. Par exemple, de nos jours, n'importe quel enfant sait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et pas le contraire. Bien qu'on voit le Soleil en train de bouger, de tourner, et la Terre, on a l'impression qu'elle ne bouge pas, mais tout le monde sait que c'est la Terre qui tourne. Tout le monde sait aussi que la Terre, elle est ronde, et non pas plate. Donc, ça on sait aujourd'hui. Et ça a été découvert il y a quelques centaines d'années. Alors que pendant des millénaires, des milliards d'êtres humains sur la planète étaient persuadés du contraire. Et sachez que ces milliards-là n'étaient pas plus bêtes que nous. Ils étaient intelligents, il y avait des génies, des érudits, il y avait de tout. Et des milliards d'êtres humains étaient persuadés que le soleil tourne, que la Terre est plate, etc. Beaucoup de découvertes scientifiques, eh bien, on était persuadés du contraire pendant beaucoup de temps. Même comme Einstein aussi, il a fait une révolution dans la relativité. Alors qu'on ne savait pas ça au début. Et même de nos jours, enfin, les scientifiques savent pertinemment que peut-être demain, il y aura un grand scientifique qui va de nouveau apparaître et qui va te prouver qu'on s'est trompé dans telle ou telle théorie. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que même dans la science, on s'est rendu compte qu'en fait, l'esprit humain, il est limité et qu'on peut se tromper. On peut être persuadé de quelque chose pendant des millénaires, et c'est des milliards de personnes sur la planète qui en sont persuadées, et on se rend compte du contraire. Prenons un autre exemple. L'atome, n'est-ce pas? La matière est constituée d'atomes, molécules, etc. Et qu'est-ce qui se passe? On te prouve, on te démontre qu'en fait, eh bien, cette table, elle est composée de milliards de particules qui sont en train de grouiller, de tourner dans tous les sens. Et en fait, la matière propre de cette table, elle est minuscule. Elle fait un grain de sable. Mais comme il y a des milliards, n'est-ce pas, de neutrons qui tournent dans tous les sens, eh bien, automatiquement, tu as l'impression que tu as une table entière. Enfin, tu en fais une table entière, n'est-ce pas? C'est comme un ventilateur qui a plusieurs hélices qui tournent rapidement, et tu as l'impression que c'est rempli, alors qu'en fait, c'est du vide. Alors qu'en fait, cette table, il y a plus de vide que de concret dans cette table-là. Alors là aussi, pendant des millénaires, on ne savait pas ça. Même de nos jours, enfin, nous on le croit parce que les chimistes, les physiciens l'ont prouvé, l'ont expliqué, l'ont démontré. Mais on ne le voit pas réellement. Et on les croit, n'est-ce pas, sur parole et selon leur démonstration. Et là aussi, eh bien, jamais on n'aurait imaginé une chose pareille pendant des millénaires. Et là aussi, on s'est rendu compte qu'en fait, on s'est trompé. C'est-à-dire que ce que tu vois, c'est réellement différent. La chose, n'est-ce pas, la consistance de la chose, eh bien, elle est différente de ce qu'elle apparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, inconsciemment, lorsqu'on sait tout cela, eh bien, ça nous empêche, disons, d'accepter la morale, la conduite, la politesse à 100% de façon rigide et stable. Pourquoi? Parce que je sais que l'esprit humain, il est faillible. L'esprit humain a montré, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la science, qui s'est trompé. Donc je ne peux pas me fier à n'importe quelle conception à 100%. Donc, on revient à notre sujet. C'est pourquoi, lorsque on va aborder un sujet qui est si important, si délicat, si fin, si subtil, comme ce qu'on appelle Tikkun HaMidot. C'est quoi? C'est le fait d'améliorer les qualités. Je sais que j'ai un défaut, quelqu'un qui est nerveux, qui est orgueilleux, qui est jaloux, etc. Eh bien, bon, on considère que c'est important d'avoir des qualités, d'être patient, d'être tolérant, etc. Alors pourquoi? Si on va baser cette finalité d'avoir des vertus, des qualités de cœur, sur la morale, la conscience, la logique, la politesse, etc., les mœurs, la façon de se conduire du pays, eh bien là aussi c'est faillible. C'est-à-dire que puisqu'en fait, toutes ces notions-là, elles ont montré qu'elles sont faillibles, même dans le domaine de la science. Alors, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez convaincant pour que je puisse faire un effort considérable dans toutes les situations. Comme dit Laurent Ban, pour la patience, il dit que, eh bien, fais attention de dire tes paroles toujours dans le calme, à n'importe quelle personne, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi un homme qui est patient, qui est calme? Quelqu'un qui sait se maîtriser, ne jamais s'énerver, dans n'importe quelle condition, pour n'importe quelle personne, en face de n'importe quelle action. Il faut toujours garder son calme et parler benachat avec beaucoup de calme, beaucoup de patience. Alors comment est-ce qu'on pourra réaliser une chose si grandiose? Si je base ma patience, ma tolérance sur le fait que, parce que c'est pas joli de crier, c'est pas agréable, c'est pas poli d'élever la voix, etc. C'est faillible tout ça. Pourquoi? Parce que tout ça est basé uniquement sur la conscience humaine, sur ce que les êtres humains ont démontré, ont prouvé, ont expliqué, sur les leçons de morale que l'humanité a enseignées. Et cela, l'humanité a prouvé que c'était faillible, dans la philosophie, dans la science, dans beaucoup de domaines. Et donc, ce n'est pas assez convaincant pour que je fasse un effort considérable toute ma vie pour avoir des qualités, des vertus. Il me faut quelque chose qui soit au-delà de tout cela pour m'inciter à me travailler pendant des années pour avoir des qualités de cœur. Top. Troisième raison. Donc, on avait dit pas qu'on a déjà cité deux raisons pour lesquelles, eh bien, ça vaut la peine d'avoir des qualités de cœur. Première raison, c'est s'arranger dans la vie, s'arranger en société, en famille. On a expliqué ce que c'est faillible. Deuxième raison, c'est parce que c'est la politesse, la conscience, les mœurs du pays, etc. Là aussi, c'est faillible. Troisième raison pour laquelle c'est important d'avoir des qualités de cœur. Ce qui s'appelle tikkun hanefesh. C'est déjà un niveau plus élevé. C'est quoi? C'est atteindre une perfection de l'âme. Comme notre corps, eh bien, c'est important qu'il soit parfait, le corps. Si quelqu'un, eh bien, il lui manque un bras ou une jambe, chas v'shalom, eh bien, il y a un défaut, il y a une imperfection dans son corps. Par aussi notre âme, la neshama, nefesh, notre âme, eh bien, elle a aussi des parties de son âme qui doivent être parfaites. Et en fait, cette âme, quelles sont les parties qui la constituent, qui la composent? Eh bien, c'est nos qualités et nos défauts. Quelqu'un qui est patient ou alors qui est coléreux, eh bien, la patience ou la colère, c'est ça ce qui va constituer les membres de ta neshama, de ton âme. Ton âme, elle n'a pas des doigts et des pieds et des mains, mais elle a, n'est-ce pas, des qualités ou des défauts. Et en fait, lorsque tu vas décider d'être un homme patient, et donc de te travailler, d'essayer de se libérer de la colère, tu es en train d'amener une perfection à ton âme. Tu es en train, n'est-ce pas, de réparer ton âme, de lui donner une certaine perfection, une certaine complémentarité. Comme dit le Chafetz Chaim, Atriat Hametim, lorsque Hachem va ressusciter les morts, le corps Bezat Hachem. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on aura aussi un corps. Un corps. Il y aura un corps, évidemment, c'est vrai. Mais ce corps, il va être constitué de façon différente. C'est-à-dire que c'est un corps humain, en effet, mais un corps qui sera plus spirituel que le nôtre. Mais ce corps, il va être composé, constitué, selon les mitzvot qu'on a faites, selon les midot, les qualités qu'on avait. Par exemple, quelqu'un qui disait beaucoup de lashon hara, qui critiquait beaucoup, eh bien, sa bouche, elle sera déformée, ou dévorée, ou trouée. Quelqu'un qui entendait du lashon hara, ben ses oreilles, elles seront de mauvaise qualité, etc. Les yeux aussi, dans la mesure où les yeux sont propres, eh bien, les yeux qu'on aura après la résurrection des morts, eh bien, ils seront parfaits ou pas. Le cœur, n'est-ce pas, sont les qualités qu'on aura. Le cœur, l'esprit, le corps humain va naître, va se lever selon les qualités que tu auras. Le corps qu'on aura, n'est-ce pas, il va être composé des mitzvot qu'on aura et des qualités qu'on aura. Donc, en fait, ça pourrait être une raison importante, suffisante, pour lui dire que, eh bien, il faut avoir des qualités de cœur. Pourquoi? Pour avoir une âme qui va être parfaite, qui aura des membres parfaits, un corps parfait aussi pour Triat HaMetim. En fait, il s'appelle Tikkun HaNefesh, la perfection de l'âme. Donc pourquoi être un homme patient, tolérant, un homme qui n'est pas trop pris par les envies, par la jalousie, etc., pour réaliser, opérer ce qu'on appelle tikkun anefesh, tikkun anshama, avoir une âme qui va être parfaite. Une âme qui n'est pas manquante, mais une âme qui est parfaite. Ça, c'est en effet, c'est déjà un niveau bien plus élevé. C'est-à-dire qu'en fait, les midot, c'est important de les avoir, des qualités de cœur, et de se libérer, de se débarrasser d'un défaut, d'un vice qu'on a. Pourquoi ? Pour s'assurer ce qui s'appelle tikkun hanefesh, une perfection de l'âme. Mais on n'est pas encore arrivé, en fait, à la finalité. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, là aussi, c'est un niveau très élevé, en effet, mais ce n'est pas encore la perfection. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, dans ce domaine-là aussi, on peut avoir un certain sentiment d'égoïsme. C'est-à-dire que je vais améliorer mes midot, je vais avoir des bonnes qualités. Pourquoi ? Pour avoir moi-même une âme parfaite. Donc en fait, n'est-ce pas ? Ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'élévation de mon âme. La perfection de l'âme. Alors je répète, c'est un niveau très élevé. C'est un niveau spirituel très élevé. Mais il y a aussi, vous savez, l'égoïsme. On le trouve dans le domaine matériel, comme dans le domaine spirituel. Alors on peut aussi, n'est-ce pas, des fois, faire la mitzvah pour un certain égoïsme. Par un certain égoïsme. Et bon, c'est un niveau élevé déjà, mais là aussi, quand on parle de la perfection, c'est pas encore cela. Donc, je fais la mitzvah, je réalise tikkun amidot. Pourquoi ? Pour avoir une âme qui est parfaite, et ça ne m'intéresse que personnellement. Et des fois, n'est-ce pas, des fois, je peux même bousculer quelqu'un, ou alors faire du tort à quelqu'un, pour soi-disant avoir une bonne mida, pour soi-disant, n'est-ce pas, avoir une perfection de mon âme. Parce que je suis intéressé par cette perfection, même sur le compte de mon camarade, de ma famille, etc. Bon. C'est pourquoi, donc, là aussi, c'est pas encore la finalité, pas encore la perfection. Deuxièmement, il y a encore un autre problème, c'est que si on s'en tient à cela, on décide d'améliorer ses qualités pour aboutir à une perfection de l'âme, eh bien, là aussi, des fois, c'est faillible. Pourquoi ? Parce que, dans certains cas, on pourra dire, dans ce cas, je renonce. Dans ce cas précis, je laisse tomber la perfection de l'âme, et c'est pas grave si j'ai une mauvaise qualité pendant quelques minutes, rien de grave. Je donne un exemple. Si on se trouve dans une situation dans laquelle on a l'occasion de voler quelques milliards sans que personne s'en aperçoive, ça prend 30 secondes, 2 minutes, personne s'en aperçoit et terminé. Alors je peux me dire, dans ce cas-là, c'est pas grave. Pendant 2 minutes, j'aurai pas une âme parfaite. Et au moins, n'est-ce pas, je serai arrangé toute ma vie, j'ai de quoi vivre comme il faut, je pourrais faire, avec cet argent, faire beaucoup de mitzvot, beaucoup de tzaka, j'ouvrirai des yeshivot, des bati midrashot. On peut trouver 36 raisons, des fois même, de faire la avera. Et là aussi, c'est que lorsque on est trop braqué sur, disons, les qualités de cœur uniquement pour cette finalité qui s'appelle la perfection de l'âme, eh bien, des fois, ça peut être faillible. Je dis, dans ce cas-là, je renonce parce que j'ai ici un intérêt plus important, c'est comme Adam Arishon. Adam Arishon, il a fait sa faute, sa avéra, mais en fait, il avait une bonne intention. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait introduire le Yetzara dans lui. Le Yetzara était auparavant à l'extérieur de Adam Arishon, à l'extérieur de lui. Il voulait l'introduire dans sa personnalité pour avoir une plus grande épreuve, pour le maîtriser et s'élever spirituellement encore plus. Alors bon, il s'est trompé parce que d'abord Hachem a dit non. Deuxièmement, parce qu'une fois qu'il a introduit le Yetzer en lui, il a été transformé par la vera, par la faute, et il réfléchit autrement. Bon, mais c'est un autre sujet. Alors, mais c'est pour dire, c'est que des fois, alors, on peut avoir l'envie de faire une avera, une faute, une gaffe, pour pouvoir gagner plus. Ce que vous l'avez dans Richon, il a dit que je fais la avera, et ensuite je gagnerai plus. Des fois aussi, on peut dire, je peux voler cet argent, je vais gagner plus. Je vole l'argent pour la tzaka. Et là aussi, c'est que lorsqu'on est trop braqué sur ce qu'on appelle tikkun hanefesh, et automatiquement, ça peut être faillible, on peut des fois faire des erreurs pour un intérêt personnel qui n'est pas en fait ce que je nous demande. Alors, mais c'est bon, on n'a pas fini le cours, on a encore deux raisons essentielles pour réaliser tikkun hamidot, qui sont en fait plus importantes, mais ça, on parlera ça demain, mes attachés. Demain à suivre.